Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou attitude. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La crise cardiaque est certainement, aux yeux du grand public, la maladie cardiovasculaire la plus connue. Et pourtant, on a beaucoup à apprendre sur cet infarctus du myocarde, son autre nom. Beaucoup à apprendre, en particulier pour faire baisser le nombre de victimes à l'échelle planétaire de cette véritable urgence vitale. Nous le verrons au cours de cette émission, l'infarctus peut se manifester de plusieurs façons. Et certains patients découvrent même a posteriori, après coup, des années plus tard, qu'ils ont été, sans le savoir, victimes d'une crise cardiaque. Une maladie favorisée par des critères que l'on ne peut pas contrôler, notamment les antécédents familiaux, mais le risque augmente également avec certaines mauvaises habitudes. Les ennemis classiques de la santé, le tabagisme, la consommation d'alcool, la sédentarité et sur le plan de l'état santé global en présence de certaines maladies chroniques. Alors agir pour faire baisser le fardeau de l'infarctus du myocarde, c'est donc essayer d'améliorer son hygiène de vie mais aussi savoir repérer les symptômes pour que face à une personne en détresse cardiaque, eh bien, la réponse soit la plus rapide possible. Reconnaître un infarctus, avoir les bons réflexes et puis comprendre les différentes prises en charge, le traitement dans l'urgence mais aussi au long cours, adapter son quotidien pour limiter les conséquences de cette maladie du cœur. Et un spécialiste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur l'infarctus du myocarde, quel suivi médical, quelle vie quotidienne après une crise cardiaque. Avec nous dans les studios de RFI, on a le plaisir de vous recevoir. Professeur Roland Guetta, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et vous êtes également professeur, le président de la Société ivoirienne de cardiologie. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons les pistes d'amélioration du dépistage du cancer du col de l'utérus à l'occasion du 46e congrès national de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. On va donner la parole au professeur Xavier Carpo-Pinault, qui est chef du service de gynécologie de l'hôpital Nord APHM de Marseille.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est en quelque sorte l'une des maladies qui fait partie de cette très grande famille, de cet ensemble des maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde. On va évidemment insister sur la prévention, la prise en charge. Mais il faut pour commencer rappeler que les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de mortalité dans le monde et que, professeur Roland Guetta, dans nos actes du quotidien, il y a vraiment des leviers sur lesquels on peut agir pour limiter les risques. Et c'est vrai que pour prévenir la crise cardiaque, on peut faire des choses, d'ailleurs pour prévenir toutes les maladies qui touchent ce fameux muscle cardiaque.
Oui, tout à fait. On peut agir sur ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont à l'origine, malheureusement, de ces accidents cardiovasculaires par le biais de l'athérosclérose essentiellement, qui est la maladie en fait qui va toucher les artères de gros et de moyen calibre et les obstruer potentiellement et provoquer ces accidents cardiovasculaires, notamment les infarctus du myocarde. Donc, ces facteurs de risque sont bien connus. Il y en a qui sont modifiables, il y en a qui sont malheureusement pas modifiables, notamment l'âge, le sexe et l'hérédité. Mais nombreux d'entre eux sont modifiables, c'est-à-dire qu'on peut agir sur ces facteurs de risque et donc freiner l'effet de ces facteurs de risque sur la survenue de ces accidents cardiovasculaires. Je pense notamment à l'hypertension artérielle, je pense au diabète, je pense au tabagisme, je pense à l'excès de cholestérol, je pense à la sédentarité, Et je pense également à l'obésité. Donc, voici des facteurs sur lesquels on peut agir et sur lesquels on peut avoir une action tout à fait positive pour faire reculer la survenue de ces accidents cardiovasculaires graves et notamment la survenue d'un infarctus du myocarde.
Il y a des explications. On n'a pas une crise cardiaque parce qu'on a peur pendant un film d'horreur. On a une crise cardiaque parce qu'on avait des problèmes de santé avant.
Oui, en fait, dans les facteurs de risque, il y a aussi le stress, en fait. Peut-être que le film d'horreur peut être un
mais
moment de stress
chose.
Aigu, mais
il
en fait, oui,
chose.
Mais en fait, voilà, c'est un facteur de risque qui est mineur. En général, c'est des patients qui cumulent aussi d'autres facteurs de risque cardiovasculaires.
Alors, il y a le surpoids, il y a la consommation de tabac, d'alcool, et puis il y a des facteurs, professeur Roland Guetta, face auxquels on est complètement inégaux. On pense en particulier à l'hérédité.
Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est des facteurs non modifiables. Malheureusement, on ne choisit pas ses parents. Donc, si dans la famille, il y a une notion d'infarctus du myocarde chez les parents, il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut être exposé à son tour à cet accident-là.
Non seulement il faut faire attention, mais il faut le mentionner au médecin en consultation.
Oui, tout à fait. Parce que dans l'interrogatoire du patient en général, le cardiologue, le médecin généraliste qui interroge le patient doit rechercher cette notion d'hérédité. Parce que même si le patient n'allègue pas cette notion-là, il faut poser la question au patient parce que c'est un élément à prendre en compte dans l'évaluation du risque cardiovasculaire des patients.
Alors, le nom de crise cardiaque, on l'entend dans la vie de tous les jours, mais il y a des questions de base, hein, comme celle que pose Lona Fogamou de Yaoundé au Cameroun sur la page Facebook de Priorité Santé. Qu'est-ce qui provoque ? On l'a un petit peu répondu à cette question, mais qu'est-ce qui provoque ? Là, on ne parle pas des facteurs de risque, mais bien de ce qui se passe dans l'organisme juste avant l'infarctus.
Alors, donc, pour bien comprendre, il faut savoir qu'en fait, quand on fait un infarctus du myocarde, on obstrue brutalement une artère qui apporte le sang au cœur. Et cette artère qui apporte le sang au cœur est appelée artère coronaire. Donc c'est une artère coronaire qui va être obstruée brusquement et de façon prolongée. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'en fait à l'origine de cette obstruction de l'artère. Et pour obstruer cette artère, il y a une maladie qui est fréquente et qui touche justement ces artères du cœur qu'on appelle l'athérosclérose. Et donc l'athérosclérose va être à l'origine donc, de cette obstruction par le biais de l'accumulation de mauvaises graisses, par le biais de l'action également nocive du tabagisme, de l'hypertension artérielle, du diabète sur ces artères, et in fine aboutir à la formation d'une plaque qu'on appelle plaque d'athérome qui va obstruer partiellement cette artère coronaire et sous l'effet de facteurs parfois exogènes, une forte montée par exemple d'une pression artérielle, cette plaque d'athérome peut se rompre, donc on appelle une rupture de la plaque, et cette rupture de la plaque va favoriser ce qu'on appelle une agrégation des plaquettes. Donc l'organisme va essayer de refermer en fait cette plaque qui s'est rompue, et malheureusement, l'obstruction va finalement être totale. Donc la plaque va obstruer totalement avec les plaquettes cette artère coronaire et être responsable de l'infarctus du myocarde. Donc en fait, la cause la plus fréquente est l'athérosclérose.
Donc cette plaque qui se décroche et sur les signes cliniques. Nestor de Port-au-Prince en Haïti demande, c'est quoi les symptômes ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on ressent toujours la même chose ?
Le symptôme clé, c'est la douleur thoracique. Parce que la douleur, elle est vraiment vive, elle est intense, elle est prolongée. Il dure plus de 20 minutes. Le patient, il a vraiment l'impression, à la limite, qu'il va mourir parce que c'est une douleur qui est atroce, cette douleur de l'infarctus du myocarde. Et c'est une douleur qui a des caractéristiques aussi particulières, notamment dans son irradiation. C'est une douleur qui va irradier au bras gauche, qui va irradier dans le cou, à la mâchoire. Et c'est une douleur qui parfois peut s'accompagner de certains symptômes comme des nausées, des vomissements. Et c'est chez un patient qui est vraiment agité, parfois couvert de sueur, et qui ressent vraiment cette douleur thoracique.
Donc à côté de la douleur... Et on distingue, excusez-moi professeur, on distingue la crise cardiaque de l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'une crise cardiaque prolongée peut déboucher sur l'arrêt cardiaque, mais ce n'est pas synonyme.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, une crise cardiaque... si rien n'est fait, en général, peut aboutir très rapidement à un arrêt cardiaque.
On va dire que c'est la complication la plus grave.
C'est la complication la plus grave, voilà. C'est maintenant, l'arrêt cardiaque peut être secondaire à beaucoup d'autres situations en dehors de l'infarctus, quoique l'infarctus soit une des premières causes de ces arrêts cardiaques.
Est-ce qu'un patient victime d'un infarctus du myocarde devra forcément, professeur, prendre des médicaments au long cours ?
Oui. La réponse est oui.
Elle est claire.
Pour ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire que quand on a survécu un infarctus du myocarde, qu'on a identifié cet infarctus, qu'on l'a traité, vous êtes amené à prendre des médicaments au long cours pour éviter la récidive.
Et comment on va évaluer les séquelles ? Avec quels examens ? Avec quel suivi ?
L'évaluation des séquelles commence d'abord par l'examen clinique. Donc on va examiner le patient pour voir s'il y a des symptômes qui gardent à la suite de son infarctus. Il y a également un électrocardiogramme. C'est un examen qui va être réalisé Ensuite, il y a une échographie cardiaque, un examen très important, qui permet d'évaluer la contractilité du muscle cardiaque. Parce que quand on fait un infarctus, en fait, on détruit une partie de son muscle. Donc l'échographie peut permettre d'identifier cette partie du muscle qui est détruite, donc qui ne se contracte plus correctement. Et il y a aussi une coronarographie. Une coronarographie, en fait, c'est un examen assez fondamental qui est réalisé, qui doit être même réalisé en urgence chez ces patients-là, puisque ça peut aboutir, tout à l'heure, on pourra en discuter sur le traitement même de l'infarctus. Donc, une coronarographie qui permet de voir, en fait, les artères du cœur et identifier l'artère qui est malade et éventuellement s'il y a un certain nombre d'autres artères qui sont aussi malades.
Avec tout un vocabulaire, on va y revenir, pontage, stent, toutes ces choses qui sont vraiment au cœur de votre activité, la chirurgie cardiaque, professeur Roland Guetta. On va tout de suite donner la parole à un auditeur pour une première question. Et pour ça, on part au Tchad.
RFI à N'Djamena, 100.2 FM.
Et c'est donc du Tchad que vous nous appelez, Josepha, bonjour.
Oui, bonjour, délégué de l'émission Qualité Santé.
Alors, si vous avez décidé de participer à notre émission, on parle de la santé du cœur. Vous êtes très jeune, vous avez 24 ans, mais vous avez déjà autour de vous observé des personnes souffrant de douleurs, comme celle qu'a décrite tout à l'heure le professeur Roland Guetta au niveau de la poitrine. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, Josepha, ces situations dont vous avez été le témoin?
Ok. Lors de mes séjours au village,
oui.
Je travaille au champ. Entre-temps, il y avait aussi un papa qui travaillait dans son champ. Et en pleine activité, il a eu des malaises. Il s'agit d'une douleur au niveau de poitrine. Oui. Et c'est une forte douleur. Accompagnée d'une transpiration. Et automatiquement, on l'a transporté. On l'a amené à l'hôpital. Et après la consultation que le médecin nous a dit, que le papa avait une angine de poitrine.
Oui.
Et sur ce, j'ai une question à vous poser.
Allez-y, Josepha.
Je voudrais savoir la différence entre une angine de poitrine et une crise cardiaque.
Parce que vous, quand vous avez vu ce papa justement avoir ce malaise, vous avez pensé à une crise cardiaque, c'est ça?
Évidemment, moi, j'ai pensé à une crise cardiaque parce que la douleur est au niveau de la poitrine, là où se situe le cœur.
D'accord. Et en fait, le diagnostic du médecin était différent. Alors, je me retourne vers notre invité, professeur Roland Guetta. C'est vrai que le cœur, on peut avoir des malaises cardiaques différents. On peut avoir des problèmes qui donnent des symptômes différents. Et on peut se demander comment est-ce que je vais reconnaître, par exemple, une crise d'angine de poitrine d'une crise cardiaque. Et c'est bien la question que pose Josepha.
Oui, okay. C'est ça.
C'est ça. En fait, dans l'angine de poitrine, l'artère n'est pas encore totalement obstruée, en fait. Voilà. Sinon, il y a une douleur qui est dite angineuse, c'est-à-dire qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la douleur de la crise cardiaque. Mais là, l'artère n'est pas encore totalement obstruée et il y a un caractère réversible de cette douleur. Soit spontanément à l'arrêt d'un effort, soit lors de la prise de certains médicaments. Donc l'artère n'est pas encore totalement obstruée. Donc c'est la grande différence avec la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde, où l'artère peut s'obstruer plus ou moins totalement et surtout de façon prolongée.
Cette crise d'angine de poitrine, vous disiez, elle a pu être déclenchée par l'effort. L'angine de poitrine, c'est une maladie chronique, c'est quoi précisément?
Oui, c'est également une maladie chronique. En fait, pendant longtemps, vous avez des artères qui sont malades, qui sont le siège justement de plaques d'athérome. Qui réduisent la lumière de ces artères coronaires, donc qui diminuent de façon chronique l'apport du sang au muscle cardiaque. Et ça se manifeste surtout à l'effort, puisque quand vous faites un effort, vous demandez au muscle cardiaque de battre un peu plus vite, donc de consommer un peu plus d'oxygène. Mais malheureusement, la réduction du calibre de ces artères, artères coronaires fait que le muscle ne reçoit pas suffisamment de sang.
Donc mais on peut cumuler les deux. On peut avoir, hélas pour certaines personnes, une angine de poitrine et puis un arrêt cardiaque parce qu'il y a une des plaques qui va se décrocher.
Absolument. En fait, ceux qui font la crise cardiaque, en général, passent par l'étape de l'angine de poitrine en le sachant ou pas.
Ou pas.
Voilà.
En tout cas, ce papa, il a été alerté. Désormais, il sait qu'il est atteint d'une angine de poitrine et donc il doit se traiter pour cela. Même si c'est chronique, on peut la contrôler.
Absolument. On la contrôle avec les médicaments. Il faut d'abord faire le diagnostic correctement, donc bien interroger le patient pour identifier les caractéristiques de cette douleur, et puis ensuite mettre un traitement. Et justement, idéalement, c'est d'identifier ces patients justement qui ont des angines de poitrine pour éviter qu'ils fassent des crises cardiaques.
Et le réflexe a été très bon là, de la part de l'entourage de cette personne qui était au champ hein, avec Josepha, qui l'ont emmené à l'hôpital, qui l'ont conduit à l'hôpital, c'était très important.
Oui, très bon réflexe. C'est ce qu'on demande toujours aux patients, de négliger aucune douleur dans la poitrine, surtout si elle fait penser à une angine de poitrine.
Voilà. Eh bien, on remercie beaucoup Josepha du Tchad pour son appel et continuez comme ça de veiller sur vos aînés, savoir réagir, justement poser des questions et les différents facteurs de risque. Il y a tout cet interrogatoire, j'imagine, pendant la consultation à l'hôpital en service de cardiologie.
Oui, c'est une étape fondamentale hein, dans le diagnostic de cette affection, puisque c'est le moment où il faut identifier ces facteurs de risque, il faut aussi donner des conseils aux patients sur le traitement qui va être entrepris. En général, c'est un traitement au long cours, donc le patient va être amené à prendre sur une longue période. Donc il faut un bon moment de discussion et d'échange pour diagnostiquer et puis pour expliquer les objectifs et les enjeux du traitement.
Et tout à l'heure, on l'a compris, hein, parmi ces facteurs, il y a l'excès de cholestérol. On rejoint tout de suite à Brazzaville, Nicole. Nicole, bonjour. Ah bah Nicole, pas de chance, on vous a perdu. Donc on va, comme d'habitude, prolonger nos efforts pour retrouver la ligne au Congo. Justement, pour revenir un petit peu, pour anticiper sur ce facteur majeur de risque d'infarctus du myocarde, l'excès de cholestérol, tout à l'heure vous utilisiez l'image de la plaque d'athérome. Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble un petit peu à une plaque, je vais schématiser vraiment beaucoup, hein, une plaque de graisse qui se détacherait dans un tuyau et qui le bouche?
Exactement, c'est un peu l'image qu'on donne aux patients et ça permet de... C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça, parce qu'effectivement, il y a du mauvais cholestérol là-dedans. Dans cette plaque d'athérome, c'est surtout le mauvais cholestérol qui va être l'élément, on va dire, assez péjoratif. Donc, c'est un dépôt, on peut le caricaturer comme ça, d'un dépôt de graisse dans la lumière de l'artère qui va être responsable donc, de cette obstruction de l'artère coronaire.
Qui menace de faire bouchon. Brazzaville, vous êtes bien là. Nicole, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 70 ans, Nicole. Depuis combien de temps est-ce que votre taux de cholestérol vous pose-t-il des problèmes ?
Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans. Et vous avez pris quelles mesures ? Vous suivez quel traitement ? Qu'est-ce que vous a recommandé le médecin ?
Le médecin m'a d'abord recommandé un régime, éviter les mauvaises graisses et le sucre. Et au début, il m'avait prescrit une statine. Et après, quand le taux s'est normalisé, il m'a dit de continuer avec le régime.
Et vous avez toujours un suivi médical régulier ?
Oui, oui.
Et votre taux de cholestérol aujourd'hui, il en est où ? Est-ce que vous êtes revenu dans les normes ?
Oui, je suis revenu dans les normes.
Sans médicaments, ça veut dire au long cours ?
Oui.
Alors, ça fait longtemps, on l'a bien compris, hein, 20 ans que vous êtes prise en charge. On l'entend aussi, vu que c'est revenu dans les normes, c'est que vous êtes bien prise en charge, Nicole. Vous avez quand même des questions sur ce cholestérol et les maladies cardiaques. On vous écoute. Vos questions au professeur Roland Guetta.
Oui, je voulais savoir l'absence des facteurs de risque. Est-ce que l'absence des facteurs de risque empêche le cholestérol de se déposer dans les parois,
Quand vous dites absence de facteurs de risque, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Que vous n'êtes pas forcément en surpoids ou que vous ne fumez pas, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire...
Parce que quand il donne les résultats, il parle des facteurs de risque. Alors, je ne comprends pas bien. Est-ce que l'absence de facteurs de risque empêche le dépôt du cholestérol dans la paroi des vaisseaux?
C'est-à-dire que, par exemple, si on n'a pas de cholestérol, si on ne fume pas, si on ne boit pas d'alcool, est-ce que pour autant, on peut avoir de l'athérosclérose et des plaques d'athérome, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Si on a un cholestérol élevé et qu'on n'a pas un autre facteur de risque.
D'accord. Est-ce que le cholestérol, à lui seul, est dangereux pour le cœur ?
Oui.
Voilà ma question que j'ai un petit peu reformulée. Professeur Nguetta.
Oui, la réponse est oui. Le cholestérol, à lui seul, déjà est dangereux pour le cœur. Mais en fait, je comprends un peu le sens de la question
de Nicole.
Quand on institue un traitement pour traiter l'hypercholestérolémie, il faut aussi avoir les autres facteurs de risque associés. Est-ce que le patient est, par exemple, hypertendu ? Est-ce qu'il est diabétique ? Mais surtout, est-ce que le patient a déjà fait un accident cardiovasculaire ? Parce que les objectifs thérapeutiques ne sont plus les mêmes. Lorsque vous faites, par exemple, un infarctus du myocarde, l'objectif thérapeutique aujourd'hui sur le mauvais cholestérol, il est très ambitieux. Il faut être en dessous de 0,55 g par litre dans les recommandations européennes. Donc, c'est des objectifs très ambitieux qui ne sont pas les mêmes chez un patient qui n'est pas hypertendu, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas fait d'accident.
Donc, on va être plus exigeant avec quelqu'un qui a des comorbidités.
Exactement, qui a des comorbidités. Donc, c'est peut-être un peu ça quand, quand Nicole parle de facteur de risque. C'est-à-dire que s'il n'y en a que l'hypertension, on a un objectif thérapeutique qui n'est pas le même que lorsqu'on a fait en plus un accident coronarien. Donc elle, si je comprends bien Nicole, elle avait que elle avait que le cholestérol qui était élevé. Donc si le taux de cholestérol revient dans les normes, en ce moment-là, elle a un objectif, on va dire, qui était moins ambitieux. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on s'est permis.
Elle cumule moins,
voilà,
on va dire.
Hein. Le médecin s'est permis de peut-être rester au régime, parce qu'avec le régime seul, il a réussi à atteindre l'objectif thérapeutique.
C'est suffisant. Vous avez d'autres questions, Nicole, concernant justement cette santé cardiaque, le cholestérol?
Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'un antioxydant et comment ça agit sur le cœur.
Alors, antioxydant et action des antioxydants sur le cœur. Pourquoi? Parce que vous prenez des médicaments ou des compléments alimentaires, par exemple?
Non, non, parce qu'il y a un médecin qui avait dit que le vin rouge, c'est un antioxydant et que c'est bon pour le cœur.
Ça, c'est vrai que ça s'est entendu à une certaine période, mais je dois dire que dans les dernières émissions qu'on a fait sur l'alcool, la santé cardiaque en général, on a pu entendre que certaines études scientifiques avaient un petit peu battu en brèche cette version des faits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Roland Guetta.
Oui, en fait, sur les artères du cœur, ça peut avoir un effet bénéfique sur la plaque d'athéro, mais attention effectivement à l'excès, pour parler d'alcool, à l'excès d'alcool. Sinon, en fait, c'est par rapport au HDL cholestérol, hein, sur l'alcool, c'est par rapport au HDL cholestérol, qui est plutôt du bon cholestérol. Donc ce cholestérol-là, lui, il va plutôt transporter la graisse vers le foie pour être transformé. Et c'est cet aspect-là qu'on utilise, en fait, pour la protection des artères, notamment les artères coronaires. Donc l'utilisation, la consommation de bonne graisse. Hein, souvent, quand on parle de bonne graisse, c'est un peu ça. On pense quelque part à ce bon cholestérol, parce qu'il faut aussi en avoir, du bon cholestérol.
Ça veut dire que quand on a du cholestérol, on n'arrête pas toutes les graisses du jour au
voilà,
lendemain.
Il faut avoir, il faut avoir du bon cholestérol pour pouvoir être aussi protégé contre ces accidents coronariens.
Nicole, aujourd'hui, vous contrôlez ce taux de cholestérol à quelle échéance, à quelle fréquence?
Tous les 6 mois.
Tous les 6 mois. Et ça, c'est une bonne chose, professeur Roland Guetta, ce suivi aux 6 mois?
Oui, tous les 6 mois, si le taux est revenu à la normale.
Quand il est contrôlé.
Il est contrôlé, c'est un bon timing.
On vous remercie infiniment, Nicole, pour votre appel. Et on va poursuivre avec d'autres questions. Ce sera juste après le duo Sikai et Ronicia, Lose You, dans Priorité Santé, sur RFI. On continue de parler de la santé du cœur.
You say you know do I can, you no need me no more. But don't leave me alone in this cold. I no be Moses, I no be John the Baptist, no be Jesus. I did do mistakes sometimes, I did fall up. But I believe in me, I believe in me, yeah. As someone stay with me, as someone. Cheat on you, now me go lose. I know, say now me go lose, yeah. If I chose you, I did mental, I did Maya.
La méprise qu'il ne fallait, tu m'as prise pour un jouet. T'as fait tout ce qu'il ne fallait pas. Tu m'as prise pour un jouet. T'as fait plus qu'il ne fallait. Tu m'as prise pour un jouet. T'as fait tout ce qu'il ne fallait. Il y a un peu de goût de l'amour dans mon âme. Je voulais juste un hello. Tu m'as poussé à t'en follow. Je t'ai haï, tu sais, je t'ai même maudit. Juste pour que t'aies la même douleur dans tes larmes.
m'a prise pour un jouet. T'as fait tout ce qu'il ne fallait pas.
Priorité santé sur RFI, nous parlons de santé cardiaque, en particulier gros plan sur l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, facteur de risque, prévention, symptômes, toujours en compagnie du professeur Roland Guetta, cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, président de la Société ivoirienne de cardiologie. Je disais tout à l'heure, la cardiologie, ça a son vocabulaire. Deux explications, deux mots qu'on peut entendre justement quand on parle de santé du cœur. Un pontage, c'est quoi, professeur Roland Guetta?
Alors, un pontage aorto-coronarien, c'est une nouvelle route, en fait, on crée pour pouvoir permettre aux muscles cardiaques de recevoir du sang. On court-circuite, en fait, les zones malades en reliant l'aorte, hein, qui est la première branche, qui, grosse artère qui sort du cœur, aux artères coronaires qui sont plutôt saines. Donc, en court-circuitant, c'est les parties malades.
C'est une opération, on va dire, délicate,
oui,
quand même.
C'est une opération délicate qui se fait à cœur ouvert.
Ça se fait dans l'urgence ou ça peut se faire après une crise cardiaque?
On peut être amené à réaliser dans l'urgence.
Ouais.
On peut être amené à réaliser dans l'urgence si, au cours de la coronarographie, il y a des lésions coronaires qui nécessitent un traitement chirurgical à corps ouvert en urgence, ça peut se faire. Mais dans la plupart des cas, dans l'infarctus du myocarde, le traitement, il est plutôt interventionnel, percutané, c'est l'angioplastie coronaire, donc cette intervention ne se fait pas à cœur ouvert, c'est plutôt par un abord artériel périphérique qu'on arrive au niveau des artères coronaires et on réussit à réouvrir ces artères et à implanter une endoprothèse coronaire qu'on appelle le stent coronaire.
Le stent, le fameux. C'est en Côte d'Ivoire, hein, chez vous, qu'on va retrouver en ligne notre prochain auditeur. C'est vous, Jolie, bonjour.
Bonjour.
Alors Jolie, vous avez 51 ans et vous avez été diagnostiquée d'une maladie cardiaque. De quel problème s'agit-il?
Ok, j'ai été diagnostiqué, on m'avait dit que j'avais l'hypertrophie du ventricule gauche.
Oui, hypertrophie ventricule. Suite à quel examen, s'il vous plaît, Jolie?
ECG.
ECG, électrocardiogramme.
Électrocardiogramme.
Vous prenez des médicaments aujourd'hui?
Oui, je prends des médicaments. J'ai une association de médicaments, c'est-à-dire Tinormine 50 et Ramitiazide.
Et Ramitiazide. En termes de suivi, vous consultez régulièrement un cardiologue, un spécialiste de la santé du cœur?
Si, j'ai un professeur au service de cardio de Trècheville.
Oui.
Qui me suit chaque 6 mois.
Donc, un bon suivi.
J'ai un dossier ouvert à son cabinet.
D'accord. Alors, Jolie, maintenant vos questions au professeur Roland Guetta, qui est à votre écoute, allez-y.
Voilà. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, Jolie.
Excusez-moi pour la voix, puisque je suis un peu grippé.
Non, on entend très bien, Jolie. Franchement,
vous êtes
ça va.
Excusez,
ok.
Ouais.
Ok. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été diagnostiqué hypertendu. Alors, ma question est la suivante. L'hypertrophie du ventricule gauche, est-ce que ça se guérit? Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, est-ce que cela peut provoquer un infarctus du myocarde?
Bon, deux questions très concrètes. Et puis aussi, la question, c'est est-ce qu'il faut prendre un traitement à vie, finalement, quand on a une hypertrophie ventriculaire comme vous? Professeur Roland Guetta, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jolie?
Avant de répondre à Jolie, j'ai une question. Est-ce que Jolie est hypertendue?
Vous êtes hypertendu ou...
Oui, en plus.
Vous cumulez, d'accord.
D'accord. Ok, donc en fait, l'hypertrophie ventriculaire gauche chez un patient hypertendu, c'est un peu un retentissement, on va dire, classique. Donc, son hypertrophie est probablement liée à son hypertension artérielle. Donc, partant de là, déjà, il faut qu'il prenne des médicaments pour son hypertension artérielle pour traiter ce retentissement cardiaque de son hypertension artérielle qui est traduite par cette hypertrophie ventriculaire gauche.
Vous avez cité tout à l'heure les médicaments. Vous prenez un traitement pour l'hypertension?
Oui. J'ai pris une association de médicaments.
C'est ces médicaments-là.
Ah oui, tout à fait.
Donc, il faut les prendre au long cours. C'est ça, professeur Roland Guetta?
Oui, il faut les prendre au long cours.
Il ne faut pas arrêter de les prendre. Et sur le risque de, finalement, que ce problème d'hypertrophie débouche ou dégénère en crise cardiaque, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a un risque ou pas?
Oui, il y a un risque. Il y a un risque parce que l'hypertrophie du ventricule gauche peut induire de l'ischémie myocardique, c'est-à-dire peut réduire l'apport en oxygène au muscle cardiaque et à la longue déboucher sur une ischémie chronique et puis qui se traduit après par des complications.
Donc le conseil très important pour cet auditeur, Jolie, c'est vraiment qu'il prenne bien son traitement, qu'il contrôle son hypertension et qu'il ait un bon suivi d'un cardiologue.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je suis revenu sur l'hypertension parce que l'hypertension elle-même est un facteur de risque majeur. Voilà. 50% des patients qui font un infarctus chez nous sont hypertendus. Donc, ne serait-ce qu'à partir de l'hypertension, qui est responsable de cette hypertrophie ventriculaire gauche, on peut être sujet à un infarctus myocardique. Donc oui, il faut traiter cette hypertrophie ventriculaire gauche. Et oui, si rien n'est fait, ça peut aboutir à un infarctus du myocarde par le biais de l'hypertension.
Donc on continue de prendre les médicaments. On remercie infiniment Jolie pour son intervention dans Priorité Santé. On va maintenant traverser l'Atlantique pour retrouver Amadou en ligne de Montréal au Canada, où il doit faire peut-être même encore nuit. Amadou, bonjour.
Oui, bonjour, Caroline.
Alors, Amadou, vous avez 54 ans. Vous êtes concerné par quelle maladie cardiovasculaire ?
J'ai une thrombose diagnostiquée depuis 2012.
Après, oui. Dans quelles circonstances est-ce que cette thrombose a-t-elle été diagnostiquée, Amadou ?
Tout a commencé en 1997, alors que j'étais hospitalisé à cause de malaria.
À cause du palu,
le palu. Après ma sortie, là, ma jambe gauche a commencé à devenir un peu lourde, là, prendre le volume à chaque fois que je marche ou bien lorsque je reste debout pendant un certain temps. Donc en 2012, je suis allé faire une consultation. On a découvert que j'ai une thrombose. En 2014, ça s'est aggravé. Donc on m'a placé des stents pour permettre au sang
de circuler.
Donc, et puis, ils m'ont prescrit de Coumadin.
Donc, vous prenez un médicament, c'est ça ?
Oui, je prends le Coumadin depuis 2014.
D'accord. Donc, vous prenez ce médicament. Et à côté de ça, est-ce que vous avez justement d'autres conseils de la part des médecins pour justement veiller à votre bonne circulation sanguine ?
On m'a demandé d'éviter de manger tout ce qui est vert, tous les aliments qui contiennent de vitamine K.
Ouais.
Et puis, un suivi à chaque 2 mois pour vérifier mon INR.
Et vous trouvez ça pesant, vous, toutes ces restrictions, ces médicaments et ce suivi, vous trouvez ça difficile à faire ?
Oui, c'est surtout au niveau de l'alimentation.
D'accord.
Donc, parce que comme j'ai peur, on m'a parlé d'une hémorragie, là, j'ai peur de prendre, par exemple, les crudités, les salades, les brocolis et autres choses. C'est pourquoi...
Ça vous complique la vie. Alors, c'est quoi la question que vous souhaitez poser au professeur Roland Guetta, Amadou?
La question que j'aimerais savoir, là, c'est de savoir s'il existe d'autres traitements moins restrictifs.
En gros, s'il y avait un médicament qui permettait de prendre, on va dire, un cachet, mais à côté de ça, quand vous passez à table, non pas manger n'importe quoi, mais ne plus avoir peur de manger du chou, je dis par exemple d'une dolée, ou encore, je ne sais pas, de la salade, du manioc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Amadou, professeur Roland Guetta ?
Oui, on peut dire à Amadou que oui, il y a une alternative aujourd'hui à son traitement anticoagulant. Il y a des anticoagulants oraux directs qui existent et qui sont prescrits dans l'embolie pulmonaire ou dans la thrombose veineuse profonde. Donc ce sont des pathologies dont il a été victime et qui peuvent être traitées aujourd'hui par ces anticoagulants oraux directs. Donc il vit au Canada.
C'est ce que j'allais lui demander. Quand vous allez chez le médecin, vous consultez plutôt au Canada ou vous consultez plutôt quand vous rentrez en Afrique ?
Je consulte ici surtout.
Donc, il y a un bon accès aux médicaments. J'imagine que vous avez une couverture santé ?
Oui.
Bon, donc ça, c'est aussi une bonne chose pour vous. Quand on veut des médicaments au long cours, un petit peu de dernière génération, est-ce que vous en avez parlé à votre cardiologue, justement, de ces contraintes qui vous pèsent au niveau de l'alimentation ? Bref, arriver et dire, docteur, moi, est-ce que vous pouvez me donner un médicament qui me soigne, mais en même temps, quand je passe à table, que je fasse un peu ce que je veux ?
Non, non.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas osé pour l'instant?
Je n'ai pas osé parce qu'à un moment donné, j'ai parlé avec quelqu'un. Il me dit qu'il existe des médicaments, mais qu'il n'y a pas d'antidote en cas d'hémorragie. C'est pourquoi j'ai évité d'en parler.
Moi, je pense, docteur, non, professeur, il faut qu'il pose la question à son médecin.
Oui, je pense qu'il faut poser la question à votre médecin. Aujourd'hui, on commence à avoir un recul assez intéressant sur ces anticoagulants oraux directs. Et donc, je pense que votre cardiologue peut vous proposer aujourd'hui cette alternative-là pour éviter justement que vous ayez ces restrictions alimentaires et que vous ayez également à vous absenter pour faire des tests biologiques.
Mmh. Donc, il faut retourner consulter Amadou, vous demander tout ça au médecin. Et je suis sûre qu'ensemble, vous trouverez un terrain d'entente pour avoir une meilleure qualité de vie. Un grand merci, bonne journée à Montréal. Et on part maintenant au Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Donatus, bonjour.
Oui, bonjour.
22,
bonjour à tous les auditeurs.
22 ans, Donatus, un problème en faisant de l'exercice du sport. Expliquez-nous ce qui s'est passé, s'il vous plaît.
Oui, tout a commencé le mois de juin 2022 par des essoufflements inhabituels après des exercices sportifs. Du coup, j'ai décidé d'aller consulter un cardiologue. Et c'était après le diagnostic que le cardiologue m'a laissé entendre que j'ai la boîte d'écarpie. Et comme il m'a rassuré que ce n'est pas grave, j'ai fait fi de lui demander des explications concernant cette maladie.
Et aujourd'hui, vous avez besoin d'explications?
Oui, bien sûr.
Alors, bradycardie, professeur Langhetta, dont souffre Donatus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Je pense que vous allez dire que ça dépend.
Effectivement, ça dépend. Une bradycardie, en fait, c'est un ralentissement de la fréquence cardiaque en dessous de 60 battements par minute. Mais il faut préciser la nature de ces bradycardies. J'ai une question à Donatus. Est-ce que le cardiologue vous a fait réaliser un électrocardiogramme?
Bien sûr.
D'accord. Et il vous a donné le résultat de l'électrocardiogramme?
Oui, il me l'a remis.
D'accord. Donc, parce que ça peut être une bradycardie dite sinusale, c'est-à-dire c'est une bradycardie qui peut être observée chez un jeune sportif, ponctuellement, ou même dans la durée, mais qui effectivement n'est pas grave. Alors, si c'est une bradycardie qui est sinusale, Maintenant, après, il peut avoir des bradycardies qui sont de d'autres natures. Et c'est en ce moment-là que l'électrocardiogramme de surface qu'on réalise peut être d'une aide intéressante, mais on peut également réaliser un électrocardiogramme beaucoup plus long, sur 24 heures, voire plus, pour pouvoir éventuellement identifier une autre nature de la bradycardie. Et puis en ce moment-là, si la bradycardie n'est pas sinusale, qu'elle est d'une autre nature, qu'il y a un trouble du rythme, de la conduction responsable de cette bradycardie, en ce moment-là, on pourra éventuellement proposer une thérapeutique adaptée à cette bradycardie. Mais si c'est une bradycardie sinusale qui est observée chez Donatus...
Ben, d'autant plus que Donatus a vu un spécialiste, il n'a pas vu un médecin ou une infirmière. Là, il a vu quelqu'un qui s'y connaît vraiment en cardiologie. Il y a de quoi rassurer parce qu'en gros, Donatus, vous avez peur d'avoir une crise cardiaque, c'est ça?
Oui, c'est bien celui-là.
Ouais, ouais, donc là, je pense que professeur Olanguetta, à 22 ans, vous faites du sport.
Ouais. À 22 ans, vous êtes sportif.
Vous êtes en surpoids ou vous avez de l'hypertension?
Non, je n'ai pas l'hypertension.
Ah. Oui, à 22 ans, si vous faites du sport, que votre cœur bat à 50, 55 par minute, ne soyez pas inquiet. Par contre, c'est quand vous parlez d'essoufflement inhabituel, est-ce que...
Ça continue tout le temps, ça, cet essoufflement?
Oui, ça continue. Là, maintenant, je ne peux pas jouer au-delà de 45 minutes.
Parce que c'est quelque chose qui est devenu nouveau, alors? Parce que quand vous faisiez du sport avant, vous n'avez pas cet essoufflement?
Non.
Est vraiment cardiaque, l'essoufflement? Ou il est aussi dans la zone de la respiration, dans la zone des poumons?
Dans la zone de la respiration.
D'accord. Après, il faut aussi qu'on vous fasse... d'autres explorations, une radiographie du thorax pour essayer de voir aussi les poumons. Il faut qu'on vous fasse aussi une échographie cardiaque pour apprécier la contractilité de votre muscle cardiaque. Donc, et puis, des examens biologiques. Ce sont tous ces éléments-là qui vont permettre de prendre une bonne décision.
Voilà, des examens complémentaires. Merci beaucoup, Donatus, pour votre appel. Il nous reste très peu de temps, mais je voulais donner quand même la parole à Ibrahima de Dakar, au Sénégal, parce que c'est un témoignage. Ibrahima, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 70 ans et vous, eh bien, vous avez été victime d'un infarctus du myocarde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ?
Oui, ça s'est passé rapidement comme ça. J'étais en train de prier, je voulais faire des ablutions. Et puis j'ai senti, on dirait que vous plantez un couteau derrière et devant. Je suis parti automatiquement à l'hôpital, ils m'ont donné des morphines, j'ai calmé, je suis revenu, ça s'empirait, je suis reparti. Quand je suis reparti, bon, là-bas, vous savez, j'étais au Nigeria, il n'y avait pas ces centres cardiologiques, ils m'ont fait des tests, ils m'ont donné 5 jours. Bon, je me suis dit, je vais aller en France, je suis parti à l'hôpital Charles II à Versailles. Quand je suis parti, ils m'ont fait des tests, ils m'ont dit que c'est une infrastructure.
Oui.
Il fallait faire un bypass, une opération de bypass.
Donc vous avez eu une opération du cœur. Aujourd'hui, vous vous sentez comment?
Bon, je me sens bien, sauf que des fois, depuis 2015, ça c'était en 2015, je me sens bien, mais depuis des fois, ça fait des douleurs. Quand je demande, on me dit que c'est des douleurs pariétales ou quelque chose comme ça, qui devait normalement disparaître depuis longtemps. Ben, maintenant, j'ai le gros problème que j'ai, c'est que au niveau des jambes, ça, je sens des brûlures. Et puis sur la plante des pieds, quand je marche, on dirait que je marche sur des cotons ou des trucs. On me dit que c'est une métatarsalgie. Bon, j'ai fait tout.
Et vous avez fait d'autres tests. Est-ce que vous avez du diabète, Ibrahima?
Oui, mais j'ai fait des tests de diabète. Ouais. On m'a donné les résultats que j'ai ici.
Et alors, vous avez du diabète ou vous n'avez pas de diabète?
Le HbA1c, ça fait 7,1%.
Bon, donc, vous êtes diabétique. Donc, peut-être, on ne va pas pouvoir prolonger cet entretien très longtemps, mais en tout cas, professeur Roland Guetta, il y a plusieurs pathologies chez Ibrahima. Il ne faut pas tout mettre sur le compte de l'infarctus du myocarde.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il a eu un pontage aortocoronarien pour son infarctus et il y a des complications également de son diabète qui doivent être prises en charge.
Voilà pour cette réponse. On remercie beaucoup Ibrahima. Allez-y, Ibrahima.
Je vous ai mal entendu ce que le docteur a dit. Je n'ai pas bien entendu parce qu'il y a un petit bruit là.
Alors, ce qu'il vous a dit, c'était donc retourner consulter, poser les différentes questions et bien distinguer, en fait, les différentes maladies, parce que ces problèmes et ces ressentis que vous avez dans les pieds, c'est peut-être dû au diabète et non pas à l'accident cardiaque que vous avez eu.
Non, je crois que c'est de la neuropathie.
Voilà.
Il y a la neuropathie diabétique aussi.
Neuropathie diabétique. Voilà, on vous remercie beaucoup Ibrahima et un grand merci à vous, professeur Roland Guetta, parce que toutes ces réponses aux auditeurs de l'émission, c'était extrêmement clair. Un grand merci pour votre présence ici dans nos studios.
Merci Caroline.
Priorité santé sur RFI.
Et on va parler maintenant du dépistage du cancer du col de l'utérus. Comment repérer les signes annonciateurs, favoriser une prise en charge à un stade précoce. Autant de sujets discutés à l'occasion du 46e congrès national de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. On en parle avec vous, professeur Xavier Carpopino. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef de service de gynécologie de l'hôpital Nord-Marseille APHM, vice-président de ce regroupement de spécialistes de la prévention des cancers utérins. Prévenir, dépister, évidemment, pour réduire l'incidence de ces cancers. On en est où du côté de la prévention, du dépistage, donc, dans un pays comme la France aujourd'hui?
Alors, si on parle du dépistage, aujourd'hui, en France, on a passé deux grands caps, puisque maintenant, nous sommes passés au dépistage basé sur l'utilisation du test HPV, c'est-à-dire la recherche du papillomavirus chez les femmes de plus de 30 ans. On ne fait plus de frottis, comme on le faisait avant. On fait la recherche de ce virus, qui est un test qui est plus performant. Et la deuxième grande étape, c'est la mise en place d'un dépistage qui est organisé, ce qui signifie que les femmes reçoivent maintenant une invitation à leur domicile pour aller faire ce test de dépistage. Et munies de cette invitation, elles vont aller rencontrer leur médecin traitant, leur gynécologue, ou éventuellement une sage-femme, ou aller en laboratoire d'analyse médicale pour avoir leur test de dépistage.
Et dans quel cas le dépistage est-il associé à une intervention préventive?
Alors, le test de dépistage, son but, c'est de mettre en évidence des lésions précancéreuses. Donc, quand un test de dépistage est anormal, on va faire un test diagnostique, c'est la colposcopie, qui va rechercher si oui ou non il y a une lésion, parce que c'est pas parce qu'on a un test de dépistage anormal qu'on a nécessairement un problème, hein. Il existe des fausses alertes. Et c'est si on trouve cette lésion diagnostiquée par la colposcopie qu'on sera amené à faire un traitement qui sera une petite intervention chirurgicale qui consiste à retirer la lésion qui est sur le col. Et en enlevant cette lésion précancéreuse, on va éviter l'apparition d'un cancer.
Alors professeur, est-ce que l'on observe aujourd'hui des différences d'une génération à l'autre, hein, on parle bien sûr toujours en France, en termes d'adhésion à ce dépistage et au-delà à ces mesures de prévention?
Alors, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que la participation des Françaises est insuffisante puisqu'on estime que c'est à peu près 60% seulement des Françaises qui se font dépister, donc 40% des femmes ne sont pas dépistées ou insuffisamment. Et on observe que c'est plutôt les femmes après 50 ans qui échappent un peu plus au dépistage. Alors on peut faire mieux dans toutes les tranches d'âge, mais on a clairement du mal à atteindre au mieux les populations qui ont dépassé la cinquantaine, et notamment les femmes les plus âgées. Ce qui est un problème, hein. Alors je rappelle qu'on dépiste jusqu'à 65 ans. En clair, le message, ce serait on dépiste insuffisamment. Donc le message, c'est toutes les femmes doivent bénéficier de ce dépistage. Hein. Ça s'adresse à toutes les femmes, quelle que soit la tranche d'âge, entre 25 et 65 ans.
Et si on espère voir éradiquer un jour ce cancer du col de l'utérus, on a une autre arme efficace, évidemment, c'est la vaccination.
Alors vous avez utilisé le mot éradiquer. L'éradication du cancer du col est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager, puisque le vaccin est très efficace. Et si on arrivait à vacciner de façon suffisante, on pourrait effectivement, au niveau mondial, envisager de faire disparaître ce virus et faire du cancer du col une maladie du passé, effectivement.
Et quand on entend aussi bien en termes de prévention que vaccination, il y a encore beaucoup à faire en termes de sensibilisation. Un dernier point, évidemment, on a parlé de la prévention, mais on peut aussi, et c'est important pour notamment nos auditrices en Afrique subsaharienne, de rappeler quels sont les premiers signes qui doivent alerter les femmes sur un risque de cancer, des signes cliniques pour celles qui ont échappé, par exemple, au frottis cervico-vaginal.
Alors, vous le dites très justement, hein, le dépistage, ça s'adresse à toutes les femmes et à des femmes qui ne se plaignent de rien. Quand on a des symptômes, on pense on n'est plus en dépistage, on est à faire un diagnostic. Et effectivement, les symptômes qui doivent faire craindre un cancer du col, ce sera les saignements, et notamment les saignements provoqués principalement lors des rapports sexuels. Donc une femme qui saigne à l'occasion des rapports sexuels, c'est jamais normal et ça nécessite une consultation médicale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, mais ça peut être un signe annonciateur, oui.
Et en tout cas, c'est important parce que beaucoup d'auditrices nous disent « j'ai peur d'en parler ». Au contraire, il faut aller voir son médecin et parler justement de ces symptômes qu'on a pu constater dans la vie intime. Merci infiniment pour toutes ces informations, professeur Xavier Carcopino. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout Samaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Raphaël Lazizi avec nous. Demain, on va parler des hépatites virales, véritable problème de santé publique, notamment dans la zone Afrique où, d'après l'OMS, le continent rassemble à lui seul plus du quart des cas d'hépatite B et C. On va parler des symptômes, de la prévention, de l'amélioration dans l'accès à la vaccination. On se dit donc à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou attitude. Bonne année!